La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Et c'était donc en mars 2003, sortait dans les kiosques le premier numéro d'un magazine s'appelant Cerveau et Psycho, et donc qui portait sur le thème de l'intelligence à cette époque. Et 15 ans plus tard, le monde des neurosciences a pris un essor considérable. Il s'est invité partout dans la société. Cette révolution Cerveau et Psycho en a été le témoin privilégié en invitant dans ses pages toutes celles et ceux qui incarnent la recherche dans ce domaine des neurosciences et de la psychologie. À l'occasion de cet anniversaire, je reçois dans un instant le psychiatre Christophe André, le neurologue Laurent Cohen et Sébastien Boller, le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Et ensemble, nous allons revenir sur les moments qui ont marqué donc ces dernières années scientifiques. Vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr, et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui les craintes de l'OMS concernant le virus Ebola en République démocratique du Congo.
Oui Mathieu, depuis avril, une nouvelle épidémie est en cours dans le pays et l'Organisation mondiale de la santé prend les choses très au sérieux. On en discute avec le virologiste Jean-Claude Manuguera.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission préparée par Lucie Sarfati avec Hannibal Ouachi.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, 15 années science avec le magazine Cerveau et Psycho. C'est donc cet anniversaire que nous fêtons cet après-midi dans la tête au carré avec nos invités qui sont souvent venus au micro nous parler des différents thèmes justement développés dans ce magazine. Christophe André, Laurent Cohen et Sébastien Boller. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue Sébastien Boller. Donc cet anniversaire, 15 années donc pour le magazine numéro 100. Vous démarriez l'aventure donc le tout premier, je le disais tout à l'heure, avec un dossier sur l'intelligence. Un thème qui reste très étudié chez les chercheurs, hein.
Tout à fait, puisqu'on a repris effectivement le thème dans ce numéro, effectivement 15 ans après, avec des nouvelles questions qui arrivent, notamment cette espèce de rumeur comme quoi l'intelligence des populations serait en train de décliner en Europe. Mmh. Voilà, donc on a demandé à un expert de nous analyser ce mythe. Voilà.
Laurent Cohen, le cerveau, c'est un gigantesque terrain de recherche qui n'a pas cessé d'ailleurs de motiver les scientifiques là depuis 15 ans. Est-ce qu'il y a un domaine qui est plus dynamique qu'un autre aujourd'hui?
Je crois qu'il y a du dynamisme à tous les étages, c'est-à-dire que pour étudier le cerveau, c'est vraiment, il n'y a pas une science du cerveau, il y en a plein. Il y a des gens qui regardent un neurone, d'autres qui regardent une molécule, d'autres qui regardent le cerveau dans son ensemble. Et à tous les étages, il y a des progrès sur les techniques qu'on utilise et il y a des changements sur les questions qu'on se pose. Donc oui, j'aurais bien du mal à en sortir une, une qui va emporter le morceau, mais...
On va en parler avec vous dans un instant sur les grands moments, justement, ces évolutions dans le domaine des neurosciences. Et puis Christophe André, la psychologie positive, la pleine conscience, tout ça, ça a explosé justement ces dernières années. Est-ce que la psychiatrie a été bousculée d'ailleurs au milieu de tous ces changements ?
Oui, oui, la psychiatrie a énormément changé, là aussi, ces 10, 15, 20 dernières années. Et notamment, c'est un peu comme le mouvement des plaques tectoniques. Vous savez, elle est en train de se rapprocher considérablement de la neurologie, des neurosciences, ce qui était un manque considérable. Pendant très longtemps, des générations ont enseigné une psychiatrie coupée de ses racines corporelles, cérébrales et organiques. Et c'était une erreur, évidemment.
Et bien justement, vous incarnez tous les deux avec Laurent Cohen ce pont jeté entre vos disciplines et vous faites la couverture de ce 100e numéro de Cerveau et Psycho, anniversaire que nous fêtons avec les auditeurs et leurs questions sur le site de la Tête au Carré. Et à la une de la science aujourd'hui, le retour du virus Ebola en République démocratique du Congo.
Inquiétude au Zaïre où une maladie inconnue a déjà tué 800 personnes. Des prélèvements effectués sur les victimes ont été envoyés à l'Institut de médecine tropicale à Anvers, en Belgique, ainsi qu'à l'Institut Pasteur de Paris.
Une vaste enquête internationale est en cours pour savoir quel est l'agent responsable sur le plan de la police scientifique. C'est une véritable enquête policière pour trouver le coupable.
Voilà, c'est une archive du journal de la nuit de TF1 en 1976. À la suite de cette épidémie, le virus Ebola sera identifié et nommé pour la première fois par le médecin belge Pieter Piot. Retour donc en 2018, puisque depuis le 8 mai dernier, une nouvelle épidémie de cette fièvre hémorragique Ebola est en cours autour de la ville de Mandaka en RDC. Elle a tué 27 personnes sur 50 infectées et l'Organisation mondiale de la santé prend l'affaire très au sérieux et craint d'ailleurs de nouvelles épidémies importantes. Axel, on en discute avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes avec le virologiste Jean-Claude Manuguera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. Et avec ce début d'épidémie dans une zone où vivent plus de 1,2 million d'habitants, on peut parler d'urgence. Est-ce que vous êtes vous-même et vos équipes prêts à intervenir en cas de besoin ?
Il y a plusieurs équipes à l'Institut Pasteur qui sont prêts à partir, des épidémiologistes et des virologistes en particulier. Mais il y a aussi d'autres institutions qui sont prêts à se mobiliser. Pour l'instant, il n'y a que 50 cas. On n'est même pas encore au niveau où on était à l'épidémie de 2014 de RDC, pas la grande d'Afrique de l'Ouest. Et donc pour l'instant, c'est plutôt la mobilisation préventive pour faire en sorte que ça ne déborde pas. Effectivement, ce qui inquiète, c'est que ça soit qu'il y ait eu 2 cas dans une grande ville.
Quelles sont les comparaisons qu'on peut faire, vous le disiez, entre cette épidémie de 2014 qui a fait 10 000 morts et ce démarrage d'épidémie qui est en cours ?
Je pense que la RDC est un pays où on attend Ebola, puisqu'en fait, il y en a tous les 2 à 4 ans des épidémies qui sont en général bien maîtrisées. Celle de 2014 avait fait 69 cas en tout. Et donc, c'est un pays qui se mobilise rapidement et qui a des structures pour faire le diagnostic à Kinshasa.
Alors, oui, quels sont les éléments clés à mettre en place dès le début, dès les premiers cas, pour éviter que ça s'emballe ?
Eh bien, faut limiter la chaîne de transmission. Et pour ça, on isole les malades. Ça, c'est très important. Dans le cas d'Ebola, on n'est pas contagieux avant d'être malade, ce qui n'est pas le cas de la grippe, par exemple. Et donc, l'isolement des malades est une mesure très efficace. Maintenant, il faut pouvoir le faire assez tôt pour qu'il n'y ait pas eu de transmission avant. Et c'est aussi de suivre toutes les personnes qui auraient pu être contaminées pour les isoler au moment où elle tombe malade.
Quels sont les premiers symptômes, justement, à repérer le plus vite possible ?
Ça commence comme une grippe, donc c'est pas très différent. Ensuite, les symptômes s'aggravent et la forme hémorragique, notamment en Afrique de l'Ouest, ne représentait que 20% des cas.
Mmh. Voilà. Pourquoi l'OMS s'inquiète tant de ce début d'épidémie ? Parce que c'est ce qui a été dit, il y a eu des communiqués avec des risques importants de prolifération, d'épidémie importante.
L'OMS avait été un peu lente lors de l'épidémie de 2013-2015 en Afrique de l'Ouest. Et donc là, je pense qu'elle a appris la leçon. L'élément aussi qui inquiète, encore une fois, c'est le fait qu'il y ait des cas dans une grande ville. Normalement, les épidémies d'Ebola sont ce qu'on appelle des épidémies autolimitées, c'est-à-dire qu'en fait, elles s'éteignent d'elles-mêmes lorsqu'elles sont dans un village, parce que soit tout le monde est mort, soit ceux qui ne sont pas morts sont protégés. Et donc là, la dynamique est complètement différente dans les grandes villes. Et on a vu à Conakry, à Monrovia, à Freetown, comment c'était difficile. Combien c'était difficile de pouvoir arrêter la chaîne.
Ouais, c'est le pire des scénarios, finalement, l'arrivée d'un virus comme Ebola dans une ville ?
Ah oui, parce qu'en fait, alors c'est un virus qui n'est pas extrêmement contagieux. Hein, et d'autres virus qui se transmettent par voie respiratoire sont beaucoup plus difficiles à maîtriser. Ebola, il faut quand même des contacts physiques étroits. On ne s'infecte pas en se frôlant. Donc on peut apporter des conseils d'hygiène pour éviter la propagation. Mais c'est un virus qui est contagieux, il n'y a pas de vecteur. Et donc c'est le contact. Et donc plus les villes sont grandes et plus les contacts sont fréquents.
La nature précise du virus a été identifiée hier par des chercheurs congolais et français de l'INSERM. C'est Ebola Zaïre, c'est sa nature. C'est une information importante là ?
Oui, alors Ebola c'est un groupe de virus, c'est un genre de virus. Dedans il y a 5 espèces et Zaïre est une des 5 espèces. Et malheureusement Zaïre est l'espèce la plus pathogène, c'est celle qui a sévi en Afrique de l'Ouest, c'est celle qui a fait les plus grosses épidémies jusqu'à présent.
C'est en termes de létalité que vous dites c'est la plus pathogène ?
Oui, c'est ça en fait. C'est celle qui tue le plus, la proportion de la plus grande proportion de malades. Ça varie entre 40 et 90%.
Ce nom d'Ebola Zaïre, c'est un rapport avec l'épidémie de 76 ?
Oui, en fait en 76, il y a eu 2 épidémies indépendantes. Une causée par l'espèce Soudan, au Soudan, et une appelée Ebola à Kikwit, au Zaïre. Alors, ça s'appelle Zaïre à cause du pays, Soudan à cause du pays, et Ebola, c'est la rivière qui était près de Kikwit.
Oui. Est-ce qu'on sait aujourd'hui exactement pourquoi et comment démarre une épidémie de la maladie du virus Ebola ?
Oui, c'est toujours le même schéma. En fait, c'est une introduction zoonotique. Hein, ça nous vient des animaux. Le réservoir est très probablement plusieurs espèces de souris frugivores qui sont dans la forêt. Et ces animaux...
Des souris ?
Pardon, j'ai dit chauve-souris.
Chauve-souris, oui.
J'ai dit souris ?
Oui.
Pardon, des chauves-souris frugivores. Et en fait, ces chauves-souris, soit elles infectent directement l'homme, soit elles infectent un animal intermédiaire. Ça peut être un singe, une antilope. Et le virus entre dans les villages par la viande de brousse.
Par la consommation de cette viande, en fait, c'est ça ?
Par la manipulation.
Manipulation.
C'est plutôt la manipulation qui est dangereuse. La consommation de viande cuite ne pose pas de problème. Mais c'est la manipulation de l'animal malade. Et c'est comme ça que le virus commence, entre dans la population humaine. Et ensuite, la transmission interhumaine devient indépendante de cette première introduction. Mais le schéma est toujours le même.
On peut traiter Ebola aujourd'hui ? Est-ce que c'est une affirmation ? Parce qu'on a souvent dit pendant l'épidémie 2014, on ne peut pas traiter Ebola.
Oui, bon, en fait, c'est une bêtise. En fait, ce qu'on voulait dire, et je l'ai dit aussi, on n'a pas de traitement spécifique antiviral, mais le traitement symptomatique permet de faire diminuer le taux de létalité. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas dit parce que les gens ne venaient pas se faire soigner.
Donc c'est une erreur d'avoir dit on ne peut pas traiter. Vous pensez que ça a tué ?
C'était simpliste, oui.
Une dernière question pour vous. Il y a un autre virus qui inquiète en ce moment en Inde. C'est Nipah, plusieurs cas de décès et une peur d'une épidémie dans la région de Kerala. Est-ce que Nipah et Ebola sont comparables ? Parce que les chauves-souris sont en commun entre les deux virus.
Oui. Alors les chauves-souris hébergent de très nombreux virus de presque toutes les familles virales. Mais ils ont en commun le fait qu'ils appartiennent au même ordre. Hein, c'est des virus qui ont des structures à peu près identiques. Les Nipah sont un peu moins longs. Mais Nipah est un virus qui, à mon avis, est à surveiller comme le lait sur le feu parce que Nipah a des formes respiratoires. Et il n'est pas impossible qu'on ait une transmission respiratoire. Et si jamais cette transmission devenait prépondérante, on peut craindre que le virus ne sorte de cette région du monde et devienne ubiquitaire.
Merci beaucoup en tout cas Jean-Claude Manuguera pour ces précisions. Vous êtes donc virologiste à l'Institut Pasteur au moment donc de ces nouveaux cas de virus Ebola en République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à la Une de la Science. Axel, on se retrouve demain.
Et oui, demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Internet qui est désormais le premier marché illicite d'espèces sauvages avec une enquête de l'ONF IFAO pour la protection des animaux qui révèle aujourd'hui des chiffres inédits sur l'ampleur du commerce en ligne d'animaux protégés, des tortues, des perroquets, des guépards et même des ours. Dans les quatre pays occidentaux étudiés, dont la France, près de 6000 annonces concernant une douzaine de milliers d'espèces protégées ont été recensées en l'espace d'un mois et demi. Un trafic qui aurait généré plus de 3 millions d'euros. Les cyber-enquêteurs estiment qu'il existe probablement un plus grand trafic encore non identifié, mettant sérieusement en danger d'extinction un grand nombre d'espèces. Le Congrès américain a approuvé hier une loi qui permettra aux patients en phase terminale d'avoir recours à des traitements expérimentaux encore non autorisés. La loi, depuis toujours soutenue par Donald Trump, suscite une vive controverse dans le pays. Pour le républicain Michael Burgess, elle offrira les patients ayant essayé tous les traitements disponibles d'avoir une deuxième chance. Mais les médecins et les associations de patients dénoncent avant tout une décision perverse qui permettra avant tout aux laboratoires pharmaceutiques de contourner les autorités sanitaires américaines. Et puis avis aux hommes, la taille des jambes jouerait pour beaucoup dans la séduction auprès des femmes. Selon un test mené par une équipe anglaise sur 800 femmes hétérosexuelles, les hommes dont les jambes représentent la moitié de leur taille seraient plus attirants. Les scientifiques estiment qu'il s'agit là d'un résultat évolutif de la femme qui tend à choisir des partenaires en bonne santé. Allez, dans un instant, le numéro 100 du magazine Cerveau et Psycho.
got the wrong man. I'm already dead. I'm already dead. And this life is but a stranger's bed.
Dead, c'était Otsuki.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
C'était donc en mars 2003, apparaissait dans les kiosques le premier numéro du magazine Cerveau et Psycho, nous retraçons donc ces 15 années de recherche concernant le cerveau, les changements dans le domaine de la psychologie. Nous accueillons bien sûr vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr, les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Sébastien Bollère, vous êtes donc le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Christophe André, vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne et puis vous contribuez régulièrement d'ailleurs au magazine. Vous écrivez des articles quasiment tous les mois maintenant, hein, c'est ça?
Oui, oui, des chroniques.
Et puis Laurent Cohen, vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'était donc il y a 15 ans, Sébastien, vous n'étiez pas rédacteur en chef à l'époque, hein, de Cerveau et Psycho.
J'étais à peine né alors.
C'est ça. Non.
Oui, ça faisait pas très longtemps que j'étais dans le groupe de presse qui a créé Cerveau et Psycho, c'est le groupe de Pour la Science, qui était un magazine de science généraliste. Ouais. Et là, effectivement, en 2003, la rédactrice en chef de l'époque, Françoise Pétry, elle s'est dit, bah, finalement, la science qui monte en ce moment, c'est les neurosciences. Ouais. Ce serait peut-être une bonne idée d'essayer quelque chose. Est-ce que ça te tente? Ouais. Donc, on a lancé ça.
C'était plutôt assez osé, finalement, non? De consacrer un magazine uniquement au cerveau.
Bah, c'était le premier pour un public, ouais, large, à la fois en neurosciences et en psychologie, effectivement. On avait emboîté le pas à une expérience analogue en Allemagne, quelques mois plus tôt,
ouais,
avec qui on est partenaire d'ailleurs. Et même aux États-Unis, certaines grandes revues comme Scientific American n'avaient pas encore ça. Ils l'ont fait après nous. Donc oui, c'était un petit peu osé. C'était une bonne idée. Ouais,
ouais, Christophe André.
Ouais. Oui, moi je me souviens très bien de la sortie du premier numéro. J'étais déjà médecin, psychiatre. Et c'est vrai que ça manquait dans le paysage. On avait des très bonnes revues de sciences sociales, de psychologie, mais rien qui soit spécifiquement dédié au cerveau, et notamment au cerveau dans ses rapports avec la vie quotidienne, finalement, puisque c'est, oui, ça l'angle aussi. C'est pas une revue purement de sciences dures, c'est aussi comment comprendre notre cerveau peut nous aider à mieux vivre. Oui. Il y a ce fil conducteur,
oui,
dans la revue.
C'était le parti pris, c'est le cerveau et tout ce qui est du domaine de l'esprit, ouais, traditionnellement plus, soit pour la psychiatrie, soit pour les sciences humaines. Tout ce, ouais, qui est, en gros, la nébuleuse psy, voilà. C'était, nous, on s'est dit, bah, c'est pareil. Le cerveau et les phénomènes de l'esprit. Finalement, nous, notre ligne éditoriale, c'est de dire que c'est un peu la même chose et qu'il n'y a pas de raison de créer des chapelles discordantes, mais plutôt, ouais, essayer d'établir des passerelles, et ça a plutôt fonctionné.
Ouais, cette passerelle, elle existait déjà dans la tête des chercheurs, Laurent Cohen,
à l'époque. Moi, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est un mot qu'on n'utilise plus tellement, peut-être le mot de culture générale. Je veux dire par là que les gens, la société, ont une certaine image d'eux-mêmes, de ce que c'est qu'un être humain, de ce que c'est qu'un homme, de ce que c'est qu'une société, etc. Et ce qui est sûr, c'est que depuis les quelques dizaines d'années, un ingrédient essentiel, mais qui n'est pas encore tout à fait passé de l'image que les hommes ont des hommes, de ce que c'est qu'un homme, ça vient des sciences de cerveau et psycho, c'est d'une certaine manière, c'est-à-dire, ouais, des sciences de ce que c'est que l'esprit quand on le considère comme émanant du fonctionnement du cerveau.
Ouais, on voit à quel point ça intéresse les gens, parce que les sujets sur la question sont hyper concernants, et vraiment, le public s'y engouffre avec plaisir. Hein.
Oui, alors, d'une certaine manière, il y a aussi des effets de caricature, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient le point de référence, eh bien, on a tendance à se dire, oh là là, et à transférer sur le cerveau un peu toutes les questions qu'on se pose, ouais, sur l'existence
la en général,
au lieu de dire, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux, on doit dire qu'est-ce que je dois faire pour que mon cerveau se porte bien.
Soit, ouais, heureux. Il faut que mon cerveau soit heureux.
Il faut que mon cerveau, oui, soit heureux. Ouais. Voilà. Donc il y a une espèce d'effet comme ça explosif où à ce moment-là on pose aux neurosciences des questions auxquelles elles sont actuellement, en tout cas, totalement incapables, ouais, de répondre.
Donc il y a une espèce de neuromania quand même, on pourrait employer ce terme.
Oui, il y a un peu de neuromania. Ouais. Voilà.
Christophe, oui, on a même des études montrant que lorsque vous publiez un papier de science ou de vulgarisation, il suffit de mettre des photos de neuroimagerie, de cerveau passé au crible pour que tout à coup il apparaisse plus crédible.
Oui. Sébastien Boller.
Ouais. Alors, Laurent Cohen a dit une chose qui est très intéressante, c'est on ne dit plus « je dois faire ça » ou « j'ai envie de faire ça », mais « mon cerveau doit faire ça ». Et même les enfants, parce que je le vois autour de moi, y compris parmi mes enfants, commencent à intégrer ça. Et je ne sais pas par quel canal ça leur arrive à l'oreille, mais maintenant vous avez des enfants qui disent « c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon cerveau ».
Ouais.
À dire oui j'ai fait une bêtise mais c'était mon cerveau.
Et dans les jeux pour enfants aussi, on avait récemment publié donc une chronique sur le fait que des fabricants de jeux pour enfants maintenant mettent un petit tampon bon pour le cerveau de votre enfant. Donc les parents sont... Alors ça c'est le côté un peu bon.
C'est du marketing clairement.
Dérive, voilà récupération, mais quand même pour autant le fond du mouvement est très bénéfique et très salutaire. Ça, je suis persuadé quand même que dans les savoirs, comme le disait Laurent Cohen. La culture générale du citoyen du monde contemporain, c'est vraiment important.
Et Laurent Cohen, ce qui est intéressant et étonnant, c'est la vitesse à laquelle tout ça est allé, finalement. Parce que là, on parle quand même d'un magazine qui a démarré il y a 15 ans. C'est rien, quoi, quand même.
Oui. Mais c'est rien. Ça montre que c'est des sciences jeunes qui ont énormément de choses devant elles. C'est rien, mais en fait, toutes ces sciences sont assez récentes, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la psychologie cognitive, c'est un truc qui a commencé au début des années 60. Ouais. Bon, ça fait pas si longtemps que ça.
Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, la science cognitive? Qu'est-ce qui se cache derrière ça, au fond?
C'est-à-dire qu'à partir des années 60, eh bien, il y a une convergence de circonstances. Il y a eu le développement de l'intelligence artificielle, de l'informatique, de la linguistique, etc. Et les gens se sont dit, il faut qu'on essaie de comprendre comment marche l'esprit, pas dans la perspective de la psychologie traditionnelle, mais en se disant, voilà, le cerveau est une machine à traiter l'information. Mmh. On devrait pouvoir comprendre ce que fait le cerveau, un peu, dans les mêmes termes qu'on comprend ce que fait un programme d'ordinateur. Rendre les choses explicites, pas de choses floues, des choses précises, des choses testables, etc. Et puis, quelques décennies plus tard, c'est surajouté à cette psychologie cognitive, les neurosciences, pour arriver à l'état actuel qui est celui des neurosciences cognitives.
Ouais. Ce pont dont on parlait, là, Christophe André, que vous incarnez d'ailleurs en photo, finalement, dans le magazine, puisqu'on vous voit poser votre coude sur l'épaule de Laurent Cohen, donc le psychiatre qui pose son coude sur l'épaule du neurologue.
Oui, d'ailleurs, on a un peu discuté de savoir quelle est la position la plus avantageuse.
Laurent disant la psychiatrie s'appuie sur la neurologie, et moi lui répondant la neurologie bénéficiant de l'appui de la psychiatrie.
Bon, on voit bien l'aller-retour, en tout cas, effectivement, et le cercle vertueux. Est-ce que ce pont dont on parlait tout à l'heure, il est bien accepté dans le milieu scientifique aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore quelques grincements dedans justement
à développer
des domaines du psychisme dans le cadre des neurosciences?
Oui, en ce qui concerne la psychiatrie, en tout cas les médecins psychiatres qui reconnaissent qu'il est important de s'adosser à des données scientifiques sont les premiers à se réjouir de ces ponts de plus en plus nombreux avec nos collègues neurologues, chercheurs en neurosciences, etc. Alors après, il y a sans doute une petite frange qui résiste avec des arguments intéressant parfois sur le fait de dire bon, il ne faut pas trop instrumentaliser le cerveau, la pensée, mais globalement, notre profession est acquise au bienfait de cette interactivité.
Sébastien Boller, comment la révolution du cerveau va changer nos vies? Ça, c'est le titre justement de ce numéro anniversaire sur l'intelligence, la santé, le sommeil, le bien-être, la concentration, l'éducation. Donc, on le disait tout à l'heure, le premier numéro, il y a 15 ans, c'était sur l'intelligence.
Ouais.
D'un trimestriel, vous êtes passé à un bimestriel et aujourd'hui, donc, vous êtes mensuel. Ça veut dire aussi qu'il y a une attente et un lectorat
tout à fait.
Qui est présent. Ouais. Vous avez un site internet qui marche extrêmement bien, une présence sur Facebook, sur Twitter. Tout ça fonctionne. Donc, on voit vraiment une appétence très forte pour les sciences du cerveau. Qu'est-ce qui a changé finalement dans le magazine, vous, dans la façon de le fabriquer et d'éditorialiser ces sujets?
Je pense que quand on a commencé, on était comme des observateurs d'une science en train de se créer avec des connaissances qui sortaient des laboratoires, et notre première mission c'était de les rendre accessibles à un public, notre public, voilà, qui était surtout au départ des chercheurs, des enseignants, des médecins, des gens vraiment pour qui ça avait une pertinence par rapport à leur activité et leur formation intellectuelle. Et déjà, la fascination pour la science fondamentale qui sortait du laboratoire suffisait, d'une certaine façon, à définir notre angle éditorial. Ce qui a changé, là, depuis quelques années, et surtout depuis qu'on est passé en mensuel, c'est que On a vu qu'on parle de neurosciences maintenant dans la sphère publique de façon très très large. C'est plus une affaire de spécialistes ou de passionnés, notamment pour tout ce qui concerne l'école. Ça concerne toutes les familles, toutes les écoles de quartier, tout partout. On parle de neuroéducation. Il y a ces débats, hein, où là encore, il y a des querelles de chapelle quand même entre les pédagogues, entre guillemets, traditionnels et neuroscientifiques. Là, ce qui a changé, c'est ça. C'est que, on parle de neuroéconomie, neuroéducation. C'est à toutes les sauces, parfois de façon exagérée. Mmh. Et donc, notre rôle a un petit peu évolué. Il consiste toujours à faire ce qu'on appelle de la vulgarisation, c'est-à-dire rendre les choses explicites, compréhensibles. Et en même temps, explorer un petit peu cette société qui change, qui est pénétrée par les neurosciences, qui change, comme disait Laurent Cohen, sa vision de l'homme. Parce que ça, c'est un débat essentiel à la fois pour la marche des sciences et de la philosophie, parce qu'en science, en France aussi, on est dans une situation particulière, pas du tout pareil que dans les pays anglo-saxons. On sépare encore beaucoup la pensée philosophique traditionnelle et les sciences, mais c'est en train de changer. Et donc, on se fait un petit peu les relais de tout ça, pour essayer aussi d'apporter une sorte de repère quand même, parce qu'on donne systématiquement la parole aux scientifiques, sur justement tous les abus qu'il peut y avoir. Quand on parle de neurosciences, ne pas parler de n'importe quoi, de neurocoaching, de neuroceci, neurocela, à toutes les sauces, mais de dire qu'est-ce que c'est quand on parle d'un neurone qui décharge de cette façon, qu'est-ce que c'est quand on parle d'un biais cognitif, voilà, donnant la parole aux gens dont c'est le métier.
Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme psycho? Parce que ça aussi, c'est un peu vague, Christophe André. Hein. Vous êtes le représentant de la psychiatrie, finalement, mais oui, derrière psycho, on peut mettre la psychanalyse, on met la psychologie. Qu'est-ce que ça veut dire psycho?
Moi, il me semble que finalement, le psycho auquel fait référence la revue et auquel je fais volontairement référence, c'est la science du comportement et la science des émotions. Ça, ce sont quand même deux domaines. Hein. La psychologie des émotions, c'est un domaine où nous avons là aussi connu des progrès considérables. Donc, comprendre comment fonctionne tout ce matériau, à la fois très ancien, très riche, que représentent nos émotions. Et puis aussi, les sciences du comportement. Il y a beaucoup d'interrogations sur, finalement, qu'est-ce qui explique que quelqu'un se comporte de telle ou telle façon. Il y a des traits de personnalité, il y a des traits liés aux circonstances de l'environnement. Donc, moi, je parlerai surtout du comportement et des émotions pour ce qu'on peut évaluer, mesurer, analyser de manière scientifique.
Allez, dans un instant, on va revenir justement sur les grandes étapes, finalement, des neurosciences pour voir quels sont les sujets ou les domaines qui ont émergé. Et puis, on partira également vers les sciences du bien-être, de la psychologie positive. C'est l'anniversaire de Cerveau Psycho, vous le savez. Et vous nous rejoignez vos questions sur franceinter.fr.
Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne. Tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour.
cache, petite reine.
Diabolomante, et c'est la version de Soko à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Christophe André, Laurent Cohen, Sébastien Boller pour ce numéro 100 de Cerveau et Psycho avec vos messages sur franceinter.fr. Je vais vous transmettre les premiers messages dans un instant. Juste un mot sur les sujets qui ont le mieux marché. Tiens, parce que ça, évidemment, c'est intéressant de voir sur 15 années, qu'est-ce qui a émergé, Sébastien Boller?
Alors, si on met de côté les tout premiers numéros, parce que nous n'avions pas encore d'abonnés, donc tous les gens qui nous achetaient en kiosque, donc ça se donnait des ventes extraordinaires, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, les abonnements sont arrivés. Aujourd'hui, ce qui a mieux marché ces dernières années, c'est ce qui concerne l'alimentation et le cerveau.
Ça, c'est votre cover numéro 1.
Ah oui, ça a été vraiment quels aliments pour préserver son cerveau, pour développer ses neurones, alors que c'est un sujet assez nouveau. Voilà. Ouais. Mais on voit qu'il y a un recoupement entre l'attrait pour la science et puis l'attrait pour la vie quotidienne.
Laurent Cohen, on a vraiment des réponses d'ailleurs à ces questions. Quel aliment pour le cerveau?
Alors moi, j'en suis resté à des choses assez élémentaires. Mmh. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que ce qui est très mauvais pour le cerveau, c'est d'avoir des artères complètement bouchées, par exemple. Et donc, il faut manger des choses,
qui ne bougent pas les artères.
Qui ne bougent pas les artères, ce sera déjà beaucoup.
Et c'est quoi les choses qui vont...
C'est-à-dire, à ce moment-là, il ne faut pas manger des graisses animales, il faut manger des fruits, des légumes, enfin, vous trouvez ça partout, il n'y a rien d'original là-dedans. Ouais. Il faut mettre sa ceinture de... C'est pas de l'alimentation, mais c'est aussi des conseils de bon sens. Il faut bien fermer sa ceinture de sécurité, parce que il y a les accidents vasculaires, mais il y a aussi les traumatismes crâniens, qui sont une chose très fréquente, surtout chez les jeunes, il ne faut pas rouler trop vite. Je vous donne des conseils bêtes, mais qui sont certainement beaucoup plus importants que des conseils extrêmement subtils, savoir s'il faut manger des sardines ou des maquereaux.
Très bien. Sébastien Boller, un autre exemple de numéro qui a bien fonctionné?
Un autre numéro qui a très bien fonctionné, c'est sur la concentration.
Ouais. Voilà. Ça fait plaisir.
Donc, c'est en lien avec l'attention, évidemment, la maîtrise de l'attention et de la concentration dans un monde où c'est de plus en plus difficile de maintenir des temps de concentration prolongés.
Ouais. Ça, c'est formidable parce que c'est vraiment un thème très important et tout le monde y est sensible aujourd'hui, surtout avec les outils dont on dispose, Christophe André.
Oui. C'est deux thèmes. Je ne sais pas quel sera le troisième, mais ce sont deux thèmes vraiment de psychologie pratique et quotidienne. C'est-à-dire, c'est de quelle façon je peux m'engager pour améliorer mon bien-être, ma santé, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux faire au quotidien face notamment à l'invasion des écrans, aux distracteurs, vous savez, on parle de perturbateurs endocriniens et nous on parle aussi volontiers de perturbateurs attentionnels dans notre environnement quotidien. Donc ça montre quand même que la motivation des personnes qui s'intéressent à cette revue et à la psychologie, aux neurosciences en général, restent pour la plupart d'entre eux des motivations...
Très pratiques.
Pratiques, d'implication. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour améliorer ma façon de vivre?
Allez, dernier exemple dans votre top 3, Sébastien, de cerveau psycho.
On a eu dans un mouchoir de poche un thème sur la charge mentale, qui a été très très attendu, sur pourquoi on finit par craquer quand on a trop de choses en tête et comment alléger un petit peu.
C'est un sujet d'environnement, de médecine environnementale.
Et puis l'autre, c'était sur les rythmes biologiques. Aussi, comment notre cerveau intègre la durée du jour, de la nuit, et comment chacun, il y a des petites variations selon les personnes, et comment ça peut se dérégler aussi.
Laurent Cohen, il y a des questions, tiens, pour vous, sur franceinter.fr. Marie demande, quand est-ce qu'on a découvert la plasticité du cerveau? Tiens, voilà une notion importante aussi, qui a bien émergé, qui a bien été intégrée.
Oui, c'est vrai, mais je vais vous décevoir, une fois de plus.
Pourquoi?
Non, le simple fait que... On peut avoir aucune connaissance sur le cerveau, mais le simple fait que toute votre vie, vous pouvez continuer à apprendre des choses, eh bien, toutes les choses que vous apprenez, que vous ayez 80 ans ou que vous en ayez 7, eh bien, ça correspond à des changements matériels dans votre cerveau. Donc, le simple fait de pouvoir apprendre toute sa vie des choses veut dire que le cerveau est plastique. Bon, maintenant, évidemment, maintenant on connaît mieux les mécanismes de la plasticité du cerveau, mais le fait que le cerveau soit plastique, c'est quelque chose qui est manifeste. Alors évidemment, ensuite, chez les enfants, le cerveau est plus plastique et diminue avec l'âge, c'est-à-dire que...
Il est plus plastique, pourquoi? Parce qu'il y a une fabrication de neurones qui est plus importante.
Il y a une fabrication, mais il y a aussi une suppression de neurones, des reconnexions, des suppressions. C'est plus mobile, c'est plus souple chez l'enfant d'une certaine manière, ce qui fait qu'il y a des enfants chez qui on déconnecte tout l'hémisphère gauche, par exemple, pour des raisons médicales. C'est comme s'ils n'avaient plus d'hémisphère gauche, qui est l'hémisphère qui parle, par exemple.
Ça veut dire quoi, on déconnecte?
Les chirurgiens, un chirurgien vient et pour soigner cet enfant d'une maladie qui lui donne, par exemple, d'innombrables crises d'épilepsie, met hors circuit son hémisphère gauche.
Combien de temps?
Définitivement.
Ah bon?
Et si vous faites ça à un adulte, eh bien cet adulte, entre autres dégâts, va
perdre le langage et ne le retrouvera jamais. Si vous faites ça à un petit enfant, eh bien chez ce petit enfant, le langage va se développer d'une manière presque normale.
Incroyable.
Et autrement dit, ça c'est un exemple comme ça extrême.
Donc, c'est quelque chose qui est... Il y a une reconnexion qui se fait très très bien chez le jeune enfant.
L'hémisphère droit se débrouille pour faire le boulot.
Il y a des périodes, de plasticité.
Il y a des périodes pendant lesquelles la plasticité, ou bien de façon générale ou bien de façon spécifique, est ouverte ou fermée. C'est-à-dire que si vous apprenez une seconde langue, eh bien, si vous l'apprenez après la puberté, eh ben, bon, vous aurez un accent qui ne sera pas parfait, votre maîtrise de la syntaxe ne sera pas parfaite. Si vous commencez tôt, eh bien, si vous êtes un tout petit enfant qui apprend deux langues, trois langues en même temps, bah vous serez parfait, sans aucun coût, dans toutes ces langues.
Christophe André ?
Oui, pour nous, en psychiatrie, en psychothérapie, la neuroplasticité a été une bouffée de réjouissance parce que je me souviens notamment des premières publications, c'était au début des années 90, montrant qu'une psychothérapie modifiait la dynamique fonctionnelle cérébrale. Et que, quand pour la première fois on peut montrer que des efforts psychologiques changent la manière de fonctionner de notre cerveau...
Donc c'est la biologie là, c'est l'impact sur la biologie même du cerveau.
Voilà, donc ça, je crois que c'était en 92, c'est un chercheur nommé Baxter, qui avait montré qu'après thérapie comportementale de patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, chez ceux qui avaient bien répondu à la thérapie, eh bien, on avait une modification très claire du fonctionnement cérébral. Ça, pour nous, c'est fondamental, parce qu'à l'époque, on était encore tout de même dans une quête de reconnaissance du fait que les thérapies fonctionnaient, marchaient, s'inscrivaient dans une réalité de changement cérébral, ne serait-ce que pour pouvoir faire face un petit peu aux prescriptions médicamenteuses, pouvoir équilibrer, c'est pas une compétition, mais de trouver une place. Donc pour nous, ce concept a été très réjouissant et très pédagogique aussi pour nos patients, en disant « faites le boulot et vous changerez votre cerveau ». C'est un peu simplificateur sans doute, mais important.
Sébastien Boller,
C'est vrai que l'histoire de la plasticité cérébrale, si on veut vraiment la dater, parce que votre question c'était quand est-ce que ça a été découvert, on se rend compte que c'était une découverte qui s'est étalée sur des décennies. Si on devait la dater, je sais pas, Laurent Cohen, c'est peut-être les travaux d'Eric Kandel sur la potentiel.
Totalement incapable de donner une date.
Dans les années 60, on a commencé à voir que les synapses, les connexions entre neurones, quand les neurones sont stimulés de façon répétitive, se renforcent. Voilà. C'était le maillon de base de la mémorisation. Au départ, c'était fait sur des escargots de mer, je veux dire, mais après on l'a fait sur bien d'autres animaux. Et les découvertes se sont ensuite enchaînées sur 30 ans, où on a observé de façon plus en plus précise comment les boutons synaptiques, les petites connexions entre neurones grossissaient chez un animal qui apprend quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas un instant précis, c'est, on peut dire, à partir des années 60, ensuite sur 40 ans.
On parlait tout à l'heure de l'entrée des neurosciences à l'école. On va écouter ce reportage qui a été diffusé en 2012 dans le 13h de France Inter à Montpellier. Et vous allez voir de quelle façon les enfants s'approprient justement le cerveau.
À partir de cette rubrique-là, vous pouvez détailler...
C'est bien connu, en cours de géographie, on dessine des cartes. Mais celle-ci est un peu spéciale.
Plus vous mettrez du personnel, mieux vous la retiendrez.
Cela s'appelle une carte mentale. À la fin de la leçon, chacun de ses élèves de 4e dessine son propre résumé du cours.
On s'est rendu compte que ça permettait de mieux ancrer dans la mémoire des notions. Plutôt que de rester sur des blocs de texte, par exemple. Souvent, quand on leur demande de réviser, les élèves qui révisent et qui font des fiches, c'est recopier le cours.
Chacun ses codes de couleur pour s'approprier la leçon, et ça marche.
Pour moi, j'aime pas trop lire, donc je préfère le voir en dessin, et c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facile à apprendre.
Cette méthode s'appelle la neuroscience. Elle s'appuie sur le fonctionnement de notre cerveau pour être plus efficace. Ce prof de maths en a eu l'idée, depuis, une soixantaine d'établissements l'appliquent.
Si on peut connaître les facteurs qui facilitent ou qui compliquent la tâche du cerveau, eh bien, on gagnera en temps, en énergie et en facilité. Que ce soit du côté enseignant ou que ce soit du côté élève.
Qu'est-ce que tu te disais ? Je vais pas y arriver, je vais tout louper, tout ça.
Et là, qu'est-ce qui t'a rassuré ?
Ben, qu'on peut parler à son cerveau.
Voilà, cet enfant est rassuré parce qu'il peut parler à son cerveau, Laurent Cohen. Et cette méthode s'appelle la neuroscience.
Ouais, super, on a gagné. Non, ça, moi je crois qu'il s'appelait faire des petits dessins, mais... Maintenant, je sais que ça s'appelle la neuroscience.
Monsieur Jourdain qui faisait de la prose.
Exactement.
La neuroéducation, un domaine qui bouscule l'éducation tout court en ce moment. L'entrée vraiment des neurosciences à l'école, ça fait grincer des dents, ça procure beaucoup d'espoir aussi.
Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de malentendus qui sont en train de se lever un petit peu. Quand le ministre est venu, Monsieur Blanquer, et dire voilà, maintenant on va mettre les neurosciences. Il y a eu des levées de boucliers. On dit quoi maintenant? On veut robotiser nos enfants, je ne sais quoi. Bon, je crois que quelqu'un comme Stanislas Dehaene, qui met les choses en place de façon extrêmement raisonnable et mesurée, a bien expliqué que le neuro n'est pas important là-dedans, ou pas très important. Ce qui compte, c'est que on veut avoir une approche rationnelle des choses. On sait des choses sur la manière dont la mémoire marche. On sait que le sommeil, c'est important. On sait que réviser en petits bouts plutôt qu'en un bloc, c'est important. On sait qu'il y a des bonnes méthodes et des mauvaises méthodes pour apprendre à lire, indépendamment de ce qui se passe exactement dans le cerveau. Ensuite, c'est très intéressant de savoir pourquoi c'est comme ça. Mais indépendamment de la machinerie du cerveau des enfants, il y a des principes scientifiques, dans le sens où ils sont objectifs, rationnels, vérifiés. Autant s'en servir pour que ça bénéficie à l'éducation.
Donc ça veut dire quoi? Vous, en tant que neurologue, vous pensez que plus de neurosciences à l'école, c'est-à-dire que nos enfants vont devenir plus intelligents, ils vont apprendre plus rapidement? Non, mais concrètement, ça veut dire quoi?
Concrètement,
la neuroéducation, ça veut dire à ça ou pas?
La neuroéducation, je ne sais pas, mais ça veut dire que il n'y a pas de raison qu'on éduque les enfants en utilisant des systèmes dont on se dit ils sont pas bons, ils sont pas les plus efficaces. On reprend l'histoire caricaturale de la lecture globale, lecture syllabique. Bon, on est d'accord, c'est devenu un peu caricatural parce que la lecture globale, on la fait plus. Mais c'est un exemple extrême, c'est-à-dire qu'on sait que la lecture globale, ça ne marche pas. Alors ensuite, il y a des gens qui savent pourquoi c'est comme ça, parce que effectivement, le cerveau analyse les mots visuellement d'une certaine manière. Mais on sait que ça ne marche pas parce qu'il y a des études qui ont été faites, qui ont comparé des écoles dans lesquelles on avait fait une méthode ou l'autre. Bon, donc, faut s'en servir de cette énorme masse de connaissances sérieuses sur l'éducation. Ce serait dommage de ne pas s'en servir.
Christophe André.
Oui, mais ce sont des craintes en grande partie irrationnelles, effectivement, cette crainte que la science fasse obstacle à une approche humaniste. Et au fond, on a eu ça aussi en médecine, en psychothérapie. Si vous êtes du côté de la science, alors vous n'êtes pas du côté de l'humain. Les deux marchent ensemble et peuvent s'enrichir au lieu de s'opposer. Moi, j'aime beaucoup, je ne sais plus dans lequel de ces bouquins, le chercheur en neurosciences, justement, Antonio Damasio, disait, mais c'est pas parce que je connais la formule chimique du parfum de la rose que je ne suis plus capable d'admirer, d'apprécier son parfum. Et les deux, et je pense que les neurosciences à l'école vont d'abord confirmer beaucoup de ce que font les enseignants déjà. Ça va pas être vous êtes nul, vous avez rien compris, voilà, on va totalement changer. Beaucoup d'enseignants, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, font déjà de la bonne éducation, s'appuyant sur les bons réseaux cérébraux, si on veut simplifier, même sans avoir de culture en neurosciences. Et puis ça va peut-être effectivement compléter, enrichir, faire évoluer nos façons d'éduquer.
Je me donne à qui me plaît, ça n'est jamais le même, mais quoi que celui qu'on n'a jamais bavé me jette le premier pavé. Je n'avais qu'un unique amour, celui-là m'a joué un sale tour. Je ne m'en porte pas plus bête, fini Roméo et Juliette. À tout je leur file un rencard, là-bas à l'ombre du hangar, où j'ai rangé mes poèmes, mes amours et ma bohème. Je les mets tous dans le même taco et bousculé par même K.O. Ils s'y brisent le cœur et les reins, et moi je trouve ça très bien. Si tu passes un jour dans ma rue, peut-être que je t'en mettrai plein la vue. Mon piano donne sur la cour, t'entendras ma chanson d'amour. Et comme ça rien qu'en passant, tu seras un peu mon amant. T'auras le meilleur de moi-même, car je ne chante que ce que j'aime. Je le chante à qui me plaît, ça n'est jamais le même. Mais quoi, faut avoir vécu sa vie? Non, je trouve que ça n'est pas si... Quoi?
1963. Je me donne à qui me plaît, Brigitte Bardot.
La tête au carré.
Christophe André, Laurent Cohen, Sébastien Boller, donc pour le 100e numéro de la revue Cerveau et Psycho, ben version mensuelle maintenant, Sébastien. Hein, c'est depuis très peu de temps. Hein,
depuis 2 ans et demi.
Oui. Ouais. Donc là maintenant, il faut carburer. Hein.
Bah oui, de toute façon, il fallait. Hein, le rythme des découvertes est tel que mensuel, c'était bien le minimum. Oui.
Mais il faut donner de bons aliments à son cerveau pour être concentré, écrire des articles.
Oui. Et puis il faut. C'est vrai que connaître le fonctionnement du cerveau, parfois, ça permet de savoir un petit peu quelles sont ses limites. C'était un des articles que nous a fait Jean-Philippe Lachaud. Tous les problèmes de gestion de l'attention, ne pas croire qu'on peut faire 1000 choses à la fois, l'histoire du multitasking, connaître les règles du fonctionnement du cerveau, c'est aussi, ça fait du bien pour gérer son quotidien.
Ah, il y a une question de Lucie qui se demande comment les journalistes de votre magazine choisissent les sujets qu'ils vulgarisent. Est-ce que les revues spécialisées, les universités vous contactent pour promouvoir un article qui vient de sortir? Comment ça se passe alors effectivement ça?
Les universités, de temps en temps, oui, ce sont les services de communication des universités qui rédigent des communiqués de presse, qui les envoient aux journaux de sciences comme le nôtre. Mais le plus souvent, c'est quand même l'équipe rédactionnelle qui cherche à identifier des sujets, soit par les rendez-vous que nous avons avec les chercheurs dans les colloques, soit par nos lectures, soit par l'observation de la société. Voilà, c'est le travail du journaliste, c'est la réflexion collective pour identifier ce qui est à la fois légitime scientifiquement et préoccupant pour les gens.
Bah justement, Lucie nous dit également, dans le monde de la recherche qui souffre de problèmes de reproductibilité, comment savoir ce qui vaut la peine d'être transmis au public? La question que je vous pose, Laurent Cohen, parce que c'est vrai qu'il y a une littérature très abondante.
Oui, c'est vrai que c'est une
comment question... trier le bon grain de livret?
C'est une très bonne question, c'est-à-dire que quand on essaie de faire passer des informations, on est toujours tenté, quand on fait un article dit de vulgarisation, on est toujours tenté de sortir le dernier papier extrêmement sensationnel qui est paru dans une revue prestigieuse et de dire voilà, nouvelle grande découverte. Maintenant, quand on essaie de faire les choses prudemment, on se dit bon, attendez, est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est reproductible? Est-ce que c'est reproduit? Est-ce que c'est un truc stable? Bon, et on essaie d'être prudent. Voilà.
Ouais, dans la psycho, est-ce qu'on arrive à reproduire les choses, Christophe André, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué du point de vue de la méthode?
C'est pas plus compliqué, mais il arrive qu'effectivement, une équipe publie un papier montrant des résultats qu'aucune autre équipe n'arrive à reproduire.
Et c'est embêtant, non?
Oui, non, mais on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu fraude? Ça a pu arriver par le passé. Ou est-ce qu'il y a eu un effet centre, un effet chercheur? Quand vous êtes une équipe connue et que vous recevez des gens, mais les gens sont tellement impliqués dans ce que vous leur proposez qu'ils peuvent avoir des meilleurs résultats thérapeutiques, par exemple, qu'une équipe plus anonyme avec des gens un peu moins connus, etc. Donc tout ça, on doit en tenir compte. On a un papier aussi dans ce numéro 100 où on rappelle les limites, par exemple, de la méditation. Aujourd'hui, c'est la mode de parler de la méditation, mais c'était important aussi de dire « Ok, c'est génial, c'est prometteur, c'est vraiment quelque chose de qui est en train de changer beaucoup de nos façons d'accompagner et de soigner, mais il ne faut pas non plus penser que c'est une panacée. Nous, on a des patients qui viennent nous voir à Sainte-Anne en disant « J'ai tout essayé, vous êtes ma dernière chance avec la méditation ». On est désolé de leur expliquer que non, d'abord ils n'ont sans doute pas tout essayé, et puis la méditation n'est pas une panacée, c'est juste une démarche particulièrement intéressante, mais qui n'est pas toute puissante. C'est important aussi de rappeler ça.
Oui, justement, au sujet de la méditation, on va écouter le Dalai Lama, qui parle de neurosciences aussi, traduit par Mathieu Ricard, et c'est un document de 2008.
La science est à l'évidence très importante. Pour l'instant, les scientifiques ne sont pas beaucoup occupés de la notion de soi. Mais les sciences contemporaines commencent à prendre un intérêt croissant à propos des émotions et de la relation entre les émotions et notre cerveau. Donc déjà maintenant, en Amérique notamment, il y a des scientifiques qui continuent à faire de la recherche, voir les effets de la méditation comme une réduction de la tension sanguine, à la réduction du stress, l'esprit devient plus calme, ne serait-ce qu'au bout de quelques semaines de méditation finalement assez simple. Donc les psychologues et les neuroscientifiques contemporains peuvent apprendre de l'expérience accumulée par les contemplatifs bouddhistes. Nous avons introduit parmi les jeunes tibétains un curriculum d'études scientifiques, même dans les monastères, où il y a donc un nombre d'étudiants sélectionnés qui étudient beaucoup plus en profondeur la science.
Voilà, Christophe André. Alors ça, c'est intéressant, hein, parce que la science jusque dans les monastères, c'est quelque chose d'assez étonnant, mais en même temps, ça sert aussi les méditants, au fond. Hein.
Oui, oui. Et puis le côté sympathique de cette initiative là, qui a été prise effectivement par un petit comité de chercheurs en neurosciences et puis autour du Dalai Lama, c'est de montrer que la science n'a pas à être coupée de la société, à se couper de ses racines sociétales. Effectivement, quand on se penche sur les traditions bouddhistes, mais au fond, beaucoup de traditions spirituelles, religieuses ou contemplatives, on trouve des écrits, des pratiques intéressantes sur le fonctionnement du cerveau. Quand vous penchez sur la philosophie stoïcienne, vous trouvez des prémices de ce qu'on appelle les thérapies cognitives aujourd'hui. Donc, c'est important que ces interfaces existent. Alors, il faut aussi que la science garde ses distances par rapport à la tradition, qu'elle soit capable de les remettre en question. Mais à ce titre, le Dalai Lama a une position très intéressante. Il dit, au fond, si un jour la science prouve qu'un des fondements du bouddhisme est erroné, eh bien, le bouddhisme devra y renoncer. C'est quand même quelque chose d'assez audacieux pour un chef religieux. Mais pour autant, la science, c'est autre chose que la religion.
Laurent Cohen, parmi les grands sujets émergents justement en neurosciences, et les Français y sont pour beaucoup, sont les travaux sur la conscience justement. Alors la conscience chez les neurologues, la pleine conscience chez les méditants.
C'est encore mieux la pleine conscience.
Oui, mais elle est où la frontière?
Non, mais la conscience, c'est un bon exemple d'un domaine qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, n'était pas considéré comme un domaine scientifique possible. C'était quelque chose qui était réservé aux philosophes, éventuellement aux psychologues, dans le sens le plus dématérialisé du terme. Et là, c'est un sujet qui est maintenant un sujet de recherche expérimentale, de biologie, comme un autre. Et effectivement, c'est quelque chose qui est d'une part excessivement intéressant sur le fond, parce qu'on veut bien savoir ce qui se passe, quelle est la machinerie qui nous permet de prendre conscience de la bouteille qui est devant qui est devant moi sur la table, etc. Et qui a aussi un impact médical important, parce que dès qu'on travaille médicalement sur le cerveau, il y a plein de situations dans lesquelles la conscience est altérée. Pathologiquement, vous avez pris un grand coup sur la tête, vous êtes dans le coma, vous avez eu un arrêt cardiaque, vous êtes dans un état végétatif, etc. C'est malheureusement des choses qui ne sont pas exceptionnelles. Et puis nous vivons nous-mêmes, nous passons sans cesse d'état de conscience à état de conscience, on dort, on se réveille, on passe par différents stades de sommeil. Et donc c'est réellement un sujet extrêmement important.
Et on voit comme la perception des choses change énormément. Enfin là, avec la conscience, on a vraiment un sujet sur une approche.
Maintenant, c'est un domaine expérimental. Il y a de l'imagerie fonctionnelle, de la psychologie expérimentale, sur les mécanismes même de la conscience. Et il y a un article dans le numéro 100 de Cerveau et Psycho de Lionel Nakache sur ce sujet.
Absolument. Et est-ce qu'on n'est pas en train de vivre exactement la même chose avec la méditation et la pleine conscience, Christophe André?
Oui, oui et non. Enfin, en tout cas, nous, quand on parle de pleine conscience, on en reste à une description plus psychologique. Mais ce qu'on retrouve, et l'article de Lionel Nakache dans la revue le montre très bien, c'est que pour qu'il y ait conscience, il faut qu'il y ait éveil et il faut qu'il y ait dialogue constant et riche entre différentes zones du cerveau. C'est aussi ce qu'on retrouve dans la pratique de la pleine conscience.
Est-ce qu'il y a des découvertes, demande Christine, qui font le lien entre le caractère psychologique d'une personne et le fonctionnement justement de son cerveau? Laurent Cohen.
Je sais que
on aimerait bien.
Je sais que à l'intérieur de la variation de la personnalité, je dirais normale, je ne sais pas très bien. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses. À partir du moment où on sort de la personnalité normale pour entrer dans le domaine des extrêmes, de l'anxiété, de la dépression, etc. Oui, bien sûr.
Bon, eh ben je vous reposerai la question dans 15 ans. Pour le nouveau numéro, les 200 peut-être de Cerveau et Psycho. En tout cas, très bon anniversaire à toute votre équipe, Sébastien Molière. Parce qu'on a également beaucoup de plaisir à travailler avec vous chaque mois, puisque vous êtes nos partenaires également sur ces sujets. Merci à vous également, Christophe André et Laurent Cohen. À bientôt.
Merci, au revoir.